Bonjour et bienvenue dans cette balado-diffusion du 16 décembre, une reprise après une courte interruption la semaine passée, hein, à cause de Le Web.
On était à Le Web de Le Loïc.
C'est ça.
Et donc le bonjour.
Le Denis et moi-même avons été un petit peu un petit peu pris. Donc autour de la table, eh bien, Denis, Nico, Camille, comme d'habitude.
Ainsi que Laure Constantinesco, comme d'habitude aussi.
C'est ça. Alors au menu cette semaine, on se demande si l'Elysée va recevoir un mail de la Dopi pour les fêtes.
Voilà.
On salue François, qui est un petit peu la dernière victime de l'Internet. Et puis on échange aussi ses cartes de fidélité papier contre une appli bien pratique, ça va être pour Denis. Mais pour commencer, je voudrais faire un petit zoom sur la situation d'un blogueur égyptien, car il semble que la situation des dissidents en Égypte n'a pas beaucoup changé malgré la fin de la dictature. Michael Nabil a été condamné mercredi en appel par un tribunal militaire à 2 ans de prison. En avril, ce blogueur de 26 ans avait déjà été condamné à 3 ans d'emprisonnement. Son crime, avoir critiqué et insulté sur son blog les forces armées. Michael Nabil a publié au mois de mars, donc sur son blog michaelnabil.com, un billet en anglais, donc vous pouvez aller le lire, intitulé « Le peuple et l'armée n'ont jamais été une seule main », dans lequel il documente en fait toutes les atteintes aux droits de l'homme commises par les forces armées pendant et après la révolution égyptienne. Je vous rappelle que depuis la chute de Moubarak, c'est l'armée qui gouverne le pays en attendant des élections, et les tribunaux militaires ne désemplissent pas, ils sont jugés des cas graves d'agression, de viol, mais aussi des cas d'insultes envers les généraux au pouvoir. Pour protester contre sa condamnation, Michael Nabil est en grève de la faim depuis le mois d'août. Son frère Marc a déclaré qu'il allait durcir cette grève puisqu'au lieu de boire du lait et du jus de fruits, maintenant il ne boirait plus que de l'eau.
Attention, il n'y a plus de glucides, ça va faire mal.
Voilà, ça va commencer à devenir vraiment difficile. Et Marc a annoncé aussi qu'il allait tenter de saisir la justice internationale sur le cas de son frère. Alors si vous voulez soutenir Michael Nabil, il y a un site de soutien qui existe, Free Michael, donc FreeFR2E, Michael MAIKEL.com, ainsi qu'un groupe Facebook Free Michael Nabil, une pétition sur change.org. Vous pouvez aussi relayer le hashtag Free Michael et suivre @FreeMichael sur Twitter. C'est RSF qui est derrière tout ça, ainsi qu'Amnesty International.
RSF Reporters sans frontières.
Voilà. Et on vous remettra bien sûr toutes ces adresses sur mobile en France.
Il est donc bien égyptien, Michael Nabil.
Oui, Michael.
Michael.
M-A-I-K-E-L. Donc Michael. Je pense que c'est Michael. une interprétation arabe de Michael, à mon avis.
Ok.
Voilà, Denis, on change complètement de sujet.
Voilà, moi je m'adresse à la ménagère geek de moins de 50 ans.
Ça existe ?
Ça existe. On en a deux à table.
Attends.
Bon, elles sont pas tout à fait ménagères, mais on va parler de cartes.
Je sais pas.
C'est vrai. On va parler de cartes de fidélité, c'est-à-dire le truc dont nos amis, nos moitiés ont des multiples exemplaires dans leur sac à main.
Et que nous, plus quoi en faire, hein.
Voilà, et que nous on retrouve pas, à part celle de Micromania. Et
exactement.
En général,
jamais à côté de la carte bleue.
Pour toi. Et donc voilà, donc son Feed All propose une application aujourd'hui Android et iPhone qui en fait simplement centralise sur le téléphone toutes ces cartes de
carte de fidélité. Barre. Mais ça existe déjà, ça.
Ça existe déjà. C'est une application qu'ils ont lancée il y a à peu près un an. Ils ont en France, il y a 2 ou 3, je pense, entreprises qui font ça. Eux sont les plus connus. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était d'aller voir comment ça fonctionnait. Et pour ce faire, j'ai été interrogé Yann Casanova, qui est son jeune directeur général de l'entreprise Feed All.
Yann Casanova, bonjour.
Bonjour, Denis.
Alors toi, je te tutoie, tu représentes la société Feed All, F-I-D-A-2-L-L, qui en fait a décidé de dématérialiser les cartes de fidélité qu'on reçoit dans la plupart de nos grandes surfaces et grands magasins.
C'est à peu près ça, oui. Je suis le fondateur donc de Feed All, qui est une start-up qui couvre en fait toute la chaîne de dématérialisation de la carte de fidélité.
D'accord. Donc en gros, et si je veux résumer, j'ai aujourd'hui un portefeuille complètement rempli et complet avec une dizaine de cartes de fidélité que je ne retrouve jamais quand je suis à la caisse.
Voilà.
Demain, vous proposez une application iPhone Android, si j'ai bien compris.
Absolument.
Qui permet d'aller choisir dans un carrousel de cartes pré-enregistrées dans l'application, puisque c'est une application, et de permettre ensuite à la vendeuse au magasin d'aller scanner le code barre dans ce cas-là.
Oui, c'est ça. Alors en fait, ça c'est un des premiers services qu'on propose à nos utilisateurs d'enregistrer toutes leurs cartes dans leur mobile à partir d'une liste de plusieurs centaines de cartes qui sont référencées dans l'appli. Mais ça, je dirais, c'est on va bien au-delà de ça, puisque ça fait longtemps maintenant qu'on propose cette solution. Et donc, on a ajouté tout un tas d'autres fonctionnalités connexes autour de ce service et de ce principe. En quelques mots, hein, brièvement, donc Fidol, on propose aussi à nos utilisateurs bien de retrouver les points de vente dont ils disposent d'une carte de fidélité sur un plan autour d'eux. On permet aussi la consultation de soldes de points de tout un tas de cartes de fidélité. Et puis on propose deux services un peu malins, en tout cas on espère. Le premier, c'est on a la possibilité depuis Fidol d'adhérer automatiquement d'un seul clic à de nouvelles cartes de fidélité. Donc on n'a plus besoin de remplir de formulaires papier ou d'attendre de recevoir la carte plastique. Et enfin, une de nos dernières fonctionnalités les plus récentes, on peut recevoir des bons plans, donc des promotions, des offres directement dans son mobile, avec une particularité quand même, on ne diffuse pas des milliers d'offres sur un seul critère de géolocalisation, on va distribuer en fait et diffuser des offres uniquement si elles correspondent aux cartes de fidélité possédées, donc pour être sûr que les utilisateurs les attendent bien évidemment, et éviter tout risque de spam et de diffusion d'offres inutiles. Donc voilà un peu pour la totalité des services. Et pour répondre à ta question initiale, hein, je n'ai pas oublié, de manière générale, oui, les caissiers ou les caissières peuvent scanner directement le code barre sur les téléphones mobiles à partir du moment où elles sont pourvues de douchettes dernière génération. Donc il y a encore quelques enseignes ou quelques points de vente qui ne sont pas équipés de ces dernières douchettes, même si au gré du renouvellement des parcs aujourd'hui, le problème a tendance à se réduire de plus en plus. Mais parfois, effectivement, la caissière est obligée de saisir à la main la douzaine de chiffres que compose le numéro de la carte de fidélité.
D'accord. Deux questions très pragmatiques. Si j'ai déjà une carte de fidélité, puisque j'ai repéré quelques enseignes, moi j'étais déjà client, je peux rentrer ma carte existante dans votre service ou bien ce sont des nouvelles cartes concrètes ?
Ah non. Alors si tu l'as déjà, il suffit que tu l'enregistres. Donc tu prends ton mobile avec ton appli Fidol, tu scannes ton code barre, l'appli le reconnaît et enregistre automatiquement ta carte dans le mobile. Donc nous on a la particularité aussi, c'est on trouve ça sympa de mettre le visuel entier de la carte ainsi que un petit descriptif qui est une sorte de rappel, on va dire, des avantages procurés par ta carte.
D'accord. En termes, alors je continue dans mes questions un peu de néophyte. Aujourd'hui, j'ai un téléphone Android, très bien. J'ai un téléphone iPhone, tout va bien. Mais là, on a appris que Nokia, qui est quand même un gros pourvoyeur d'applications, était aussi sur le marché. Des velléités à aller vers ces plateformes-là aussi ou pas du tout ?
Oui, complètement. Alors, il faut quand même préciser une chose, c'est que Fidol, on est une modeste start-up hein, aujourd'hui, donc on avance, on va dire, pas à pas, mais bien évidemment, on a vocation à se déployer sur la totalité des plateformes pour, répondre et apporter ce service au plus grand nombre. Donc, 2012, on a prévu de déployer le service sur d'autres mobiles et d'autres systèmes d'exploitation que Android et iPhone, qui sont quand même malgré tout aujourd'hui les gros consommateurs d'applications en France en tout cas.
Encore une question d'ordre très pragmatique, est-ce que tu as déjà des retours de clients qui disent « mais je suis passé en caisse et la caissière m'a regardé comme un ovni » ou plutôt, où est-ce que les gens sont formés dans les magasins avec qui vous travaillez pour répondre aux gens qui vont montrer des téléphones aux caissières ?
Alors c'est marrant parce que c'était les remontées qu'on avait au début. Donc nous on a sorti Fidol, je crois au mois de juillet 2010, et effectivement on avait des remontées d'utilisateurs qui nous disaient mais le caissier ou la caissière a complètement halluciné lorsque j'ai dégainé mon téléphone mobile et a été vraiment surprise. Donc ça c'était au tout début, mais aujourd'hui voilà, il faut voir que Fidol c'est plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Donc maintenant c'est un service, on va dire, qui est vraiment rentré dans les mœurs et a priori les caissiers ou les caissières sont de moins en moins surpris et ça arrive de moins en moins qu'elles ne connaissent pas ce système. Donc le principe aujourd'hui est bien fluide et est complètement accepté au niveau des points de vente.
D'accord. Et au niveau du business model de votre application, c'est une application qui est totalement gratuite pour l'utilisateur.
Absolument.
Or j'imagine que des fois tu as faim et donc tu as envie de manger, donc comment vous rémunérez derrière ?
Alors en fait, nous, on va chercher notre rentabilité auprès des enseignes, justement par rapport au service que j'ai décrit qu'on leur propose, qui est d'abord de leur apporter, on va dire, des nouveaux clients fidèles et des nouveaux adhérents. Donc ce système que j'ai décrit d'adhésion automatique, donc encore une fois, qui est là pour faciliter la vie du client final, hein, ne pas l'obliger à aller remplir son formulaire papier. C'est un service qu'on facture aux enseignes. Donc ça, c'est un premier axe de revenu pour nous. Je dirais l'autre axe, c'est ben, la diffusion des offres promotionnelles, puisque si on propose aux enseignes, qui aujourd'hui, aux enseignes et aux marques d'ailleurs, hein, qui aujourd'hui diffusent et communiquent auprès de leurs membres et de leurs adhérents via l'email, via le SMS ou via des prospectus dans les boîtes aux lettres, ben nous on leur dit écoutez, utilisez le canal Sidol pour aller cibler et donc toucher vos clients qui utilisent l'appli quotidiennement. Donc voilà un peu où on va chercher notre business model.
D'accord, vous êtes rentable aujourd'hui ou c'est des infos que tu gardes?
Alors non, on n'est pas encore rentable, hein, puisque on est toujours en phase de lancement, on va dire. Après, comme on est une petite structure, on n'a pas tellement de coûts fixes, on va dire. Tout dépend des investissements marketing et communication qu'on fait pour faire un peu parler de nous. On est une appli qui a très très bonne presse, donc on bénéficie d'un bon buzz. Hein. Mais maintenant, voilà, on vise la rentabilité pour le premier semestre 2012.
D'accord. Yann, je te souhaite une bonne journée et je retrouve ton application sur l'Android Market ou l'Apple Store.
Absolument. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci, à plus.
Au revoir.
Et donc, ton appli, c'est bien, mais quand tu tombes en rate de batterie, comment tu fais à ta caisse pour que la nana, elle scanne ton code barre?
Tu poses de mauvaises questions, Nicolas. Mais c'est un peu, bah oui, mais bien sûr, évidemment.
Dans un monde meilleur,
ça ne remplacera jamais ta superbe carte en multiples exemplaires en plastique.
En même temps, si tu perds ton portefeuille, tu ne trouves plus non plus ta carte de fidélité,
oui,
ça marche pas non plus.
Bon.
Non, mais oui, bien sûr, évidemment. Enfin, on peut juste dire que, a priori, les batteries vont tenir plus longtemps.
Dans un futur plutôt lointain.
Moi, ce qui me plaît dans le principe et globalement, c'est que je me trimballe toujours avec plein de cartes dans les poches, sauf celles qui correspondent au magasin dans lequel je vais. Et ça m'agace et c'est pour ça que le sujet m'intéresse.
Mais fais-toi offrir un petit porte-carte à Noël. Hein.
Bah oui.
Voilà, qui restera aussi à la maison sur le bureau avant que je parte faire mes courses. Tu sais, nous sommes des garçons.
Mais c'est vrai qu'à force de mettre tout dans son téléphone, il va falloir se l'attacher avec une chaîne
en
argent massif, le téléphone, parce que si on le perd, on n'est pas bien.
Peut-être.
Ah, le blanc.
Et bien sur ce blanc. On change de sujet après les cartes de fidélité, les journaux qui meurent. Camille, tu nous parles d'une page, c'est le cas de le dire, qui se tourne dans le secteur des médias traditionnels de la presse papier.
Exactement. Donc. Oui, l'annonce de la fin de la parution de l'édition papier de l'historique journal François au profit de l'édition numérique a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. En grave crise financière, le grand quotidien national, comme il aime se surnommer sur son site internet qui d'ailleurs reste muet sur cette affaire, donc ce grand journal mythique de Pierre Lazaret fondé en 1944 s'est vu obligé d'arrêter le print pour se tourner vers le net. Bien qu'officiellement l'arrêt de l'édition papier ne soit pas encore acté avec l'annonce de la suppression de 89 postes sur 127 faites aux journalistes ces derniers temps, le doute n'est plus vraiment permis.
Donc la fin de François.
Voilà, mais d'ailleurs, la dernière édition papier de François, initialement prévue pour ce jeudi 15 décembre, est parue deux jours plus tôt, donc mardi. C'est les deux derniers numéros qui ont été empêchés de paraître par une occupation des locaux, une fin pas vraiment glorieuse
par des syndicats.
Si on veut un journal collector, c'est celui-là qu'il faut acheter.
Voilà, celui de mardi.
Malheureusement, ils n'ont pas fait le traditionnel. Enfin, ça devient horrible, on fait des journaux traditionnels, journaux de fin de parution qui rassemblent en général toute l'histoire du journal et qu'on s'arrache à prix d'or.
Voilà.
Ils n'ont pas fait.
Non. Bon, en même temps, voilà, vous me direz qui lisait François ces dernières années. Est-ce que vous avez jamais lu un numéro?
Si, moi, je me rappelle de quelques couvertures vues dans les kiosques la fin de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday serait-il ceci? C'est pas franchement.
La fin d'Elvis.
Voilà, je pense qu'on n'est pas le public cible et qu'effectivement, justement, le print avait perdu énormément son lectorat puisqu'il a été relancé.
Oui. C'est une analyse de Claude Soulac sur son blog Multimédia. C'est un symbole, d'accord, mais personne ne l'achetait. Donc certes, pourtant, c'est un quotidien historique parce qu'il a tenu quand même le million de lecteurs quotidiens dans les années 60. Mais pourtant, dès les années 70, François a été rattrapé par l'air du temps et la technologie. Et de façon symptomatique, comme on va le retrouver aujourd'hui, sa lente chute démontre que le journal n'a pas su s'adapter aux nouveaux usages. Alors en vogue pendant les 30 glorieuses, il n'amorce pas bien le virage de mai 68 et à cela s'ajoute l'amorce d'une crise financière et la valse de ses dirigeants. Mais surtout, c'est la concurrence accrue de la radio et de la télévision à l'époque qui le desserve.
Et donc une fois de plus, là, François s'est fait devancer par le web.
L'issue de cette crise du journal se trouve donc sur l'internet, et ce malgré les investissements de l'actuel jeune propriétaire du journal, le riche héritier russe Alexandre Pougatchev. C'est d'ailleurs une grande première en France qu'un quotidien se tourne exclusivement vers le web. Plusieurs titres de presse écrite en ont parlé de ce coup de tonnerre pour la profession dans leur édition de ces deux derniers jours.
Et sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, apparemment la Tribune suivrait le même trajet.
Si la Tribune et le Parisien qui n'est pas très en forme non plus, apparemment.
S'ils se tournent directement vers le web, comment ils vont faire pour manger les gens? Parce que autant vendre de l'espace publicitaire dans une presse écrite, je veux bien, mais sur le web, sachant que le web, il n'y a pas qu'un seul journal, on a pléthore de contenus ou de sites d'infos, donc pourquoi spécifiquement aller chez eux et donc leur apporter du contenu publicitaire ou non?
Bah, c'est maintenir un titre et puis c'est...
Maintenir une marque aussi, ouais. On peut se dire que le pouvoir d'attractivité de la marque peut continuer à exister sur Internet, autant pour les annonceurs que pour un lectorat. Et puis, tout le monde mise quand même sur ces nouvelles façons de lire, qui sont les tablettes, ouais. Les e-books, qui vont commencer à se démocratiser, qui commencent à se démocratiser malgré tout. Et je pense que les grosses entreprises de presse se disent que l'écrit n'est pas mort, mais que l'écrit va renaître un peu sous ses différentes formes numériques.
C'est un énième pure player qui, là, pour le coup, utilise la marque François. Moi, la seule question que je me pose par rapport à François, c'est autant des journaux, prenons la Tribune, par exemple. On sait que c'est un journal économique, donc on est en quête d'économie, on y va. Même si le Parisien était amené, j'espère que non, et je touche tout ce que je peux pour que ça leur arrive pas, du bois, essentiellement. c'est quand même des journaux qui ont une forte identité. Je parle en 2011, qui a une forte identité. On sait que c'est de l'actu locale, proche des gens. Pour François, je mets au défi quelqu'un autour de la table d'encore savoir à quoi ça correspond. Oui, donc c'est dur en termes de marque. Je sais pas. Voilà, l'avenir nous le dira, je pense. Mm. C'est beau, j'aime bien finir comme ça des phrases. L'avenir nous le dira.
Sur cette note un petit peu triste, Nico, on passe à ce qui peut être pour certains l'info de la semaine.
Oui, l'info de la semaine des geeks.
Pareil que ça télécharge illégalement à l'Elysée.
Ah bah bravo, bravo. Bravo, hein. Mes impôts, ils passent là-dedans. Hein. J'espère que vous avez une connexion fibre. Donc oui, l'Elysée était pris la main dans le sac. Donc l'info est révélée par Nicolas Perrier, donc nicopic.com ou @nicopic sur Twitter, N-I-K-O-P-I-K. Donc un site a été mis en place afin de tracer, entre guillemets, les téléchargements effectués via le protocole BitTorrent. Et ce site montrerait que des copies pirates de films et de musique auraient été téléchargées depuis le palais de l'Elysée.
Oh.
Alors bon, pour le point de vue technique, toutes les institutions ont ce qu'on appelle des plages d'IP, donc c'est-à-dire une tranche d'IP fixe attribuée aux différents services de l'État, donc l'Elysée, les impôts...
En gros, pour que tout le monde comprenne, c'est des adresses avec un numéro
défini. Avec un numéro
mais tu veux dire que nous, en tant que particulier, on n'a pas des IP fixes?
Alors, ça dépend de ton type de connexion. Soit tu es dans une grande ville comme Paris et tu as certains fournisseurs d'accès comme Free, Orange, SFR, Bouygues, etc., qui te fournissent...
L'excès de publicité nuit gravement à la santé.
Qui te fournissent une IP fixe, c'est-à-dire qu'elle ne change pas dès que tu te fais déconnecter, et ce qu'on appelle une IP dynamique, c'est-à-dire que dès que ta box déconnecte et reconnecte, ton adresse IP change. Donc, principalement, aujourd'hui, on n'a plus que des IP fixes, à part quand on est très loin dans la campagne.
Moi, par exemple,
j'ai une Livebox d'un opérateur bien connu, et mon IP change toutes les 6 heures, même que parfois, ça me fait partir de l'internet, dis donc.
D'accord, donc c'est ça.
Mais, et donc ça veut dire que tu peux légalement télécharger avec toi ?
Ça veut dire que non, parce que chaque IP que tu as récupéré pendant cette tranche de 6 heures,
elle est quand même gardée en mémoire.
Elle est quand même gardée en mémoire avec ton nom derrière. Denis. Donc voilà.
Tout à fait.
D'accord.
Donc bon, en cherchant sur le net, en utilisant les différents moyens qui sont mis à notre disposition, on trouve ces fameuses plages, parce que c'est des données publiques. Et donc en tapant ces fameuses IP dans le moteur de recherche de Torrent, on découvre donc que des films et musiques ont été téléchargés en toute illégalité depuis des postes reliés à leur réseau. Donc comme tout le monde le sait sur l'internet moderne, la loi Hadopi veut placer l'IP sur un piédestal et nous faire croire que l'IP c'est nominatif et qu'on peut remonter la trace de quelqu'un juste avec cette donnée, donc ce qui n'est pas totalement vrai, puisque par exemple en entreprise, comme on est bien placé pour le savoir, on a une seule IP internet. Et on a des milliers de postes informatiques derrière cette IP.
Voire des centaines de milliers dans une entreprise aussi grosse que la nôtre.
Exactement.
Donc tu veux dire qu'il vaut mieux qu'on vienne télécharger nos séries
au bureau.
C'est interdit. C'est interdit. Tu l'as signé dans ton contrat de travail, je te signale. D'ailleurs, c'est vrai. que dans le règlement intérieur.
Ah, moi, j'ai pas ça dans mon
règlement intérieur.
C'est marqué.
Règlement intérieur de l'entreprise, c'est écrit.
De toute façon, je ne le fais pas.
Moi non plus, personne ne le fait.
Donc,
qui télécharge, j'aimerais savoir, moi.
Je ne sais pas.
Qui sont les pirates?
Donc, il a été démontré que de.
Qui sont-ils? Quel est leur règlement?
Ce soir, non. Donc, il a été démontré par de nombreux tests faits par des particuliers ou même des spécialistes en sécu que la remontée par l'IP n'est pas fiable pour retrouver quelqu'un sur un réseau peer-to-peer, parce qu'on peut être victime de ce qu'on appelle une injection d'IP ou ce qu'on appelle sur la toile un seed fuck. Excusez-moi pour le terme. Exactement. Donc techniquement, comment ça marche? BitTorrent, qui est le protocole de téléchargement, fonctionne avec l'aide d'un tracker, qui est une sorte de serveur qui contient toutes les données disponibles au téléchargement, les IP de ceux qui veulent télécharger, etc. Et le principe de ce seed fuck, c'est de polluer ce tracker en injectant énormément d'adresses IP qui n'ont jamais mis les pieds sur ce site ou qui n'ont jamais cherché à télécharger. Donc elles se retrouvent dans les bases de données, et ces adresses IP de tracker, c'est là-dessus que se basent le service d'Adopi pour remonter les gens. Donc ils voient une liste d'IP, ils demandent aux différents fournisseurs d'accès à qui ça correspond, et ils envoient des lettres. Sauf que si ton IP s'est fait injecter dans ce système, tu peux être tout à fait innocent et remonter dans les listings Adopi.
Donc c'est ce qui a pu peut-être arriver
potentiellement.
Là, tu es en train de donner deux choses. Tu es en train de donner des arguments au stagiaire de l'Elysée qui a illégalement téléchargé un vieux film tout pourri, et tu es en train de lui dire non, c'est un site fuck. On vous a injecté l'IP de l'Elysée, c'est un vilain pirate qui a fait ça. Et tu es en train de dire aussi que l'IP, c'est pas un moyen fiable et que donc il faudrait mieux filtrer l'internet à la source.
Non, je ne dis pas ça.
Ah, d'accord.
Je suis anti-filtrage, tu le sais. Comme tu le dis, il y a deux questions qui se posent à nous. Soit ils ont été victimes d'une injection, soit ils ont vraiment téléchargé, et donc moi je veux savoir s'ils vont recevoir une lettre d'Adopi et passer devant le juge pour une suspension d'abonnement. À mon avis, non, puisque bon.
Voilà. Parce que c'est une paternelle admonestation la première fois.
Voilà.
Attention, c'est mal.
Donc le doute est permis, puisque c'est forcément une de ces deux solutions. Donc soit un site fuck, dans ce cas on demande par A plus B que l'IP n'est pas une donnée fiable pour tracer, donc dans tout le système Adopi s'écroule. Et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Soit ils avouent avoir téléchargé illégalement, et c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Donc, du foutage de gueule,
en d'autres termes. Du foutage de gueule. Donc quand on sait que c'est eux qui nous pondent Adopi, l'OPSI, les lois liberticides, le filtrage des pays à la source d'Internet, etc., qui veulent mettre la charge financière de filtrage sur les fournisseurs d'accès, et donc du coup ça va se répercuter sur nos prix d'abonnement. Voilà.
Mais tu n'es pas sans savoir que ces chers gouvernements, dont actuellement les États-Unis, et sont en train de subir une grosse campagne de la plupart des géants de l'Internet maintenant, ils sont en train d'essayer de placer un truc qui s'appelle SOPA, S-O-P-A,
oui.
Qui en fait, en gros, n'est ni plus ni moins que du filtrage à la source de certains sites, et qui donc permettrait à
pour un gouvernement débloquer un site d'un contestataire sur son régime.
Non, enfin, c'est surtout à la base, ils disent que c'est pour contrôler les pédophiles, pour éviter les sites de téléchargement illégal, parce qu'aux États-Unis c'est ce qu'ils sont en train de proposer. Et donc en gros ils te disent l'IP n'est pas un moyen efficace. Donc on va utiliser autre chose, mais on va aller filtrer à la source.
Ouais, mais c'est du filtrage d'hébergeurs.
C'est du filtrage d'hébergeurs, et c'est ce que Sergey Brin lui-même, fondateur de Google, cher Google si tu m'entends,
j'ai vendu mon âme à Google.
Et Sergey Brin lui-même a dit qu'en faisant passer une loi de type SOPA, on n'aurait plus de différence entre les États-Unis et un pays
comme la Corée du Nord.
Ou la Chine qui filtre le contenu. Oui.
Voilà. Bah, qui a d'ailleurs un espèce d'intranet. Hein, là.
C'est de la censure, donc.
Donc, une seule solution, la licence globale.
La licence globale, bien entendu. Voilà. Je préfère.
Oui,
personnellement, payer 5€ en plus sur mon abonnement internet et qu'on me laisse télécharger que ces 5€ soient reversés directement aux artistes plutôt que de me prendre des taxes copie privée dans le milieu professionnel sur les disques durs, les CD, les clés USB, les lecteurs MP3, les ordinateurs, les netbooks, ce genre de choses, et que les artistes n'en voient jamais la couleur.
Ce qui est dommage, c'est que moi, en tant que contribuable, ce que j'ai peur, c'est qu'on investisse énormément d'argent dans une track sur internet
qui n'est pas fiable,
de délits débile comme du téléchargement de films, alors qu'on est tous autour de cette table. Même moi, 5€ me semble une hérésie, parce que ce serait pas viable pour le secteur, enfin c'est mon avis, mais même d'aller jusqu'à payer 10 ou 15€ par mois pour une licence globale qui me permettrait en toute l'égalité, de télécharger des contenus culturels et de l'exception culturelle française, c'est quand même pas pour rien qu'on vient s'installer en France quand on est belge comme moi. C'est juste l'argent, le rapport entre l'argent investi pour filtrer des contenus et l'argent investissable en nous demandant de payer une quote-part pour que ce soit légalisé. Je veux dire, Internet est la plus belle des bibliothèques du monde, et pourquoi ne pas donner un droit d'accès à cette bibliothèque pour que le modèle économique s'établisse. Moi, ce qui me fait peur, c'est, bon, au-delà de l'anecdote de l'IP de l'Élysée retrouvée, c'est que on va de plus en plus vers des choses où les gens vont s'amuser à nous pourrir la vie en nous mettant notre IP, l'IP de ta grand-mère, l'IP de ton père, dedans, juste pour dire j'emmerde le système.
Ouais, sachant
système,
que c'est à toi de prouver ta bonne foi.
Ouais.
Alors que normalement, le système judiciaire, c'est l'inverse. C'est, tu es présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Coupable, là, tu es présumé coupable.
Et que j'ai l'impression que des gens qui sont potentiellement en campagne pour 2012, une élection présidentielle en France, ne se positionne pas plus efficacement sur ce genre de sujet. Enfin, autant j'aime pas le discours pro-Adopi parce que je le trouve passéiste et rétrograde, autant j'ai peur que des gens dans l'opposition actuellement, bah, quand tu regardes les programmes, on n'est pas sur des logiques très révolutionnaires non plus. Non. Voilà, le PS, pour ne citer que lui, j'attends de revoir ce que François Hollande va proposer sur le sujet. Il avait fait une belle page sur son site de campagne. Aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Maintenant, la page n'existe plus. Hein. On revient sur les propos qu'on dit. Attention, je veux des voix.
Oui, ça passait de on abroge l'Adopi à aujourd'hui.
Oh, pourquoi pas, ça fait des ronds.
Donc, je pense que ce genre de sujet, il va falloir un moment qu'on les prenne à bras le corps, parce que c'est vrai qu'on n'est pas un maximum de votants anti-Adopi, mais voilà, à un moment, il va falloir qu'on en sorte, parce que les artistes ont besoin de becqueter, c'est sûr, mais on n'a plus les moyens.
Mais je pense que l'internaute est prêt à payer. Il paye pour de l'information, il commence à payer pour de l'information, il y en a qui... On peut payer pour des contenus culturels, ça semble pas choquant. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous compris que l'artiste avait besoin de manger, c'est juste qu'à un moment, on veut une offre légale qui soit... cohérente et aussi riche que celle qu'on trouve illégalement. C'est aussi ça le fond du problème, je pense, le catalogue.
Et pas forcément trop cher, parce que moi, je veux dire, si tu me dis...
Oui, et 5€ le film en VOD pour 24 heures de visionnage avec même pas une VO, c'est abusé. On est d'accord.
On résoudra pas la question aujourd'hui.
Malheureusement.
Par contre, on essaye de promettre que dans un prochain podcast, on parlera d'ACTA, SOPA... Sopa Party on the Beach et tout.
Voilà,
ça.
Tout à fait.
Histoire que
qu'on soit bien au point sur ce genre de loi,
ce genre de sujet
qui nous gouverne... notre internet aujourd'hui.
Notre belle internet.
Eh bien, merci à tous. C'est déjà la fin de ce podcast.
Et
oui.
Denis, un petit mot pour finir.
La semaine prochaine,
peut-être. Un petit mot pour finir. On a fait dromadaire. On peut faire ta manoir.
Ta manoir, très bien.
Alors, ce sera ta manoir.
Avant la fin de la semaine prochaine, on peut quand même dire que c'était le dernier podcast en compagnie de notre wonder stagiaire Camille, qui quitte le service dans lequel nous travaillons.
Au revoir, Camille.
Et qui va continuer ses études. Alors, attends, séquence publicité. Alors, Camille Laurent, qui a aujourd'hui 22 ans et étudiante en sciences politiques.
Elle cherche du travail.
Très bientôt, mais voilà. Donc, on a été très contents de travailler avec elle et on lui souhaite bon vent, bonne route.
Merci beaucoup.
Bonne continuation, Camille, et surtout fais attention aux robots.
Attention aux robots,
ils sont très... rester vigilants.
On ne s'en méfie jamais assez et on reste vigilants.
À la semaine prochaine.